sur notre page Facebook VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique, nous sommes le dimanche 17 mars 2024, il est 15h ici à Washington DC, 19h en temps universel. À ce micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter un bulletin d'information. Le président russe Vladimir Poutine a recueilli 87% des voix à l'élection présidentielle qui s'est achevée ce dimanche selon le sondage de l'institut officiel Vitium associé à la télévision d'État. D'après la commission électorale russe, le maître du Kremlin a obtenu 87,97% des voix après le dépouillement des bulletins de 24% des bureaux de vote. Les réactions se multiplient depuis cette annonce. L'ex-président russe Dmitri Medvedev salue la victoire écrasante de Poutine. Le score de Poutine n'a pas de lien avec la réalité, a dit pour sa part l'équipe du défunt opposant Alexei Navalny, mort le 16 février dans une prison de Kharkiv en Yamali. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que Poutine est un homme ivre de pouvoir qui veut régner éternellement. L'élection n'est pas légale, libre et équitable, a réagi dans un communiqué le ministère polonais des Affaires étrangères, ajoutant que le scrutin s'était déroulé dans un contexte de répression sévère et dans les régions occupées de l'Ukraine en violation du droit international. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a assuré dimanche devant le chancelier allemand Olaf Scholz qu'Israël ne lancerait pas d'opération militaire à Rafah dans le sud de la bande de Gaza tant que la population serait enfermée sur place. Lancer une opération à Rafah n'est pas quelque chose que nous ferons en laissant la population enfermée sur place. Nous ferons en réalité le contraire, a-t-il affirmé, alors que la perspective d'un tel assaut est redoutée par la communauté internationale dans cette ville où près de 1,5 million de Palestiniens sont entassés selon l'ONU. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui appelé à un accord sur les otages et à un cessez-le-feu durable. Il a dit comprendre les familles d'otages qui disent que le temps est venu pour un accord afin de sauver les personnes captives. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken entame ce dimanche en Corée du Sud une brève tournée en Asie qui le mènera également aux Philippines. Les États-Unis redoublent d'efforts pour affermir leurs relations avec des pays asiatiques dont les Philippines pour faire contrepoids à la Chine. La Chine qui a récemment accusé les États-Unis d'utiliser les Philippines comme un pion en mer de Chine méridionale après plusieurs incidents autour d'îlots que les deux pays asiatiques se disputent. Dans ce contexte, les Philippines ont conclu des accords militaires avec les États-Unis et l'Australie.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
En RDC, les combats ont repris hier samedi après un bref moment d'accalmie entre les rebelles du M23 et les FRDC, forces gouvernementales, et leurs alliés dans la cité stratégique de Sake, où 8 casques bleus ont été blessés selon l'ONU. La chef de la mission de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a dans un communiqué condamné l'attaque contre des casques bleus survenue le 16 mars. Le porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Dike, a accusé l'armée rwandaise d'avoir ciblé la position de la mission onusienne lors des affrontements entre les FRDC et le M23. Le Rwanda a toujours démenti une quelconque implication dans le conflit dans l'est de la RDC. Au Nigeria, plusieurs responsables politiques et de la société civile ont appelé à la retenue ce dimanche au lendemain de l'annonce de la mort de 16 militaires tués dans l'état pétrolier du Delta. Samedi, l'armée nigérienne avait annoncé la mort de 16 militaires tués le 14 mars alors qu'ils étaient déployés dans le cadre d'une mission de conciliation entre les communautés des deux villages voisins de Kouama, d'ethnie Urobo, et d'Okolaba, d'ethnie Ijao. La presse locale a fait état ces dernières semaines d'affrontements entre ces deux communautés, chacune revendiquant la propriété des terres et se disputant les droits de pêche. Et puis au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko et son second et candidat à la présidentielle du 24 mars, Bassirou Diomaye Faye, ont fait campagne hier samedi en Casamance, 2 jours après leur libération de prison. La Casamance aurait dû être la capitale économique et culturelle du Sénégal en raison de ses nombreuses potentialités agricoles, forestières et touristiques notamment, a dit M. Faye. Il a promis, s'il est élu, de faire des problèmes de cette région enclavée et minée depuis plus de 40 ans par une rébellion indépendantiste armée, une urgence à régler. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était Mouhamadou Oumfa à la présentation. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, l'information, c'est 24h sur 24 sur notre site web voaafrique.com. À tout à l'heure.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Madilakidza avec vous. Fatouma Alimas Kalala assure la réalisation et la mise en onde. La récente décision de la France d'inscrire explicitement l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans sa constitution a suscité des réactions vives, notamment du Vatican. L'IVG demeure donc un sujet complexe qui soulève des questions profondes sur la moralité, les droits des femmes et les croyances religieuses. Avec nos invités, cette édition de Dialogue des religions explore ces questions en vue de jeter les bases d'une réflexion constructive et respectueuse, permettant ainsi de progresser vers des solutions équilibrées et inclusives. Merci de nous rejoindre pour ce Dialogue des religions. Nous sommes en ligne avec la sœur Denise Ayoko Kossi. Bonsoir, ma sœur.
Bonsoir, Eric.
Merci
pour cette opportunité qui m'est donnée.
Notre deuxième invitée, c'est l'historienne Sophie Bessis. Bonsoir, Madame Sophie.
Bonsoir.
Madame Sophie, je vais commencer avec vous. Comment le Vatican et les évêques de France perçoivent-ils cette évolution législative et quels sont leurs arguments contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution?
Écoutez, vous savez très bien que depuis toujours, l'Église catholique est farouchement opposée à l'interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est une constante dans ses attendus, dans ses prises de position, quels qu'aient été les papes successifs qui s'en sont exprimés depuis que la question de l'interruption volontaire de grossesse existe. Il ne faut pas oublier, donc c'est une position effectivement contre laquelle s'est élevée la France, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, elle vient d'inscrire l'interruption volontaire dans la Constitution. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout ça qui est important. Cela signifie que constitutionnellement, le droit des femmes à disposer de leur corps est reconnu. Tant que l'IVG n'est pas reconnu ou est interdit, comme le font beaucoup de pays, cela signifie que le corps des femmes ne leur appartient pas, mais qu'il appartient à la société. C'est ça que ça veut dire. Et donc, évidemment, depuis fort longtemps, les femmes ont demandé, puis exigé, cela dépend des périodes, que leur corps leur appartienne. Et le slogan qui résume cela, c'est « Un enfant, si je veux, quand je veux ». La question est de savoir si l'Église, un jour ou l'autre, va être capable de faire ce qu'on appelle un aggiornamento, c'est-à-dire va être capable de prendre en considération l'évolution des sociétés, l'évolution des mœurs, bien sûr, et surtout, va prendre en considération la nécessité pour les femmes d'avoir la maîtrise de leur corps, donc de leur fécondité, donc de leur maternité. Alors évidemment, c'est un combat de longue haleine, puisqu'il y a des pays, la plupart des pays africains interdisent l'interruption volontaire de grossesse. Il y a eu une régression extrêmement importante aux États-Unis du fait de l'arrêt de la Cour suprême récent. Vous êtes aux États-Unis, je ne vais pas vous le rappeler. Et donc, en réaction à ces régressions, telles qu'elles ont pu avoir lieu en Pologne et dans d'autres pays, eh bien, la France a décidé, et c'est une victoire historique des droits des femmes, incontestablement, a décidé d'inscrire cette garantie, cette liberté garantie. Selon les propos de la Constitution, il s'agit d'une liberté garantie aux femmes d'exercer de pouvoir accéder à l'interruption volontaire de grossesse. Alors il était évident, si vous voulez, que le Vatican et les évêques de France réagissent négativement à cette avancée historique. Ce n'est pas une surprise. Maintenant, évidemment, la France est un État laïque et donc la France n'a pas à se préoccuper de ce que peut penser l'Église catholique de cette position, dans la mesure où, depuis la loi de 1905, il y a une séparation institutionnelle entre l'Église et l'État.
Et vous, en tant que maire, comment vous percevez-vous l'inscription de l'IVG dans la Constitution française et quels sont les enjeux qui vous préoccupent le plus à cet égard?
Rien ne me préoccupe. Absolument rien ne me préoccupe. Je trouve que c'est une victoire extrêmement importante et il faut la saluer comme telle. Donc je n'ai aucune... Il faut bien voir que le droit à l'interruption volontaire de grossesse ne remet absolument pas en cause le désir de maternité des femmes pour les femmes qui désirent être mères. Cela ne, l'interruption volontaire de grossesse n'est pas une obligation à interrompre sa grossesse. C'est un droit à choisir si l'on veut avoir des enfants ou pas, et si l'on veut en avoir quand, comment, et selon telle périodicité. Donc il n'y a pas du tout à s'inquiéter, c'est une remise en cause d'absolument aucun droit. Aucun droit, il s'agit d'une liberté, et je le répète, de la liberté des femmes à disposer de leur corps. Donc je crois que la France, là, a marqué une avancée historique qu'il convient bien évidemment pour toutes les femmes du monde de saluer.
Sœur Denise, comment votre tradition religieuse aborde-t-elle la question de l'IVG et quelle est votre propre perspective à cet égard?
Pour l'Église catholique, l'interruption volontaire de grossesse demeure une atteinte à la vie. La constitution du Concile Vatican de Gaudium et Spes Dei, Dieu maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception. Le pape François lui-même dit fermement que l'Église catholique est contre l'avortement. À Marseille, en septembre dernier, il avait évoqué les enfants pas-nés refusés au nom d'un faux droit au progrès qui est en fait une régression. L'Église catholique s'oppose à toute forme d'avortement et enseigne qu'il s'agit d'un acte immoral. En effet, selon le catéchisme de l'Église catholique, la vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception. Dès le premier moment de son existence, l'être humain doit souvent reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de tout être innocent à la vie. D'ailleurs, selon le canon 1398 du Code du droit canonique de 1983, quiconque procure un avortement, si l'effet s'ensuit, encourt l'excommunication, l'état sanctité, c'est-à-dire automatiquement. La doctrine de l'Église, la position de l'Église, les enseignements de l'Église sont assez clairs. Partant de la doctrine de l'Église, de la décalogue, tout est assez clair. Il est dit dans les 10 commandements que tu ne tueras point. Donc, tout ce qui est interruption volontaire de la grossesse est proscrit par la foi chrétienne. Selon moi, mon égard, ma perspective, est tout d'abord que notre histoire commence dès la gestation. En tant qu'être humain qui rend grâce à Dieu tous les jours pour le souffle de la vie, je suis pour la vie. J'ai vu des gens autour de moi qui ont tout fait pour avoir des enfants et qui ne l'ont pas eu. Alors que chez nous en Afrique, l'enfant constitue une richesse. Comment se débarrasser de cette richesse? Il y a des structures prêtes à accueillir ces enfants ou des familles qui sont prêtes à l'adoption. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un homme et une femme ont décidé de m'accorder la vie et ne m'ont pas ôté cette vie. J'encourage ces femmes qui se trouvent dans ces situations à se faire accompagner, à s'ouvrir, à demander de l'aide, car les conséquences qui découlent de l'IVG sont à vie. Merci.
Oui, vous venez donc de donner vos perceptions à la lumière des enseignements et des valeurs de votre foi. Sœur Denise, comment les croyances religieuses peuvent-elles coexister avec les lois civiles et les droits des individus en matière de santé reproductive?
Bon, moi, je ne suis pas de la conciliation entre les croyances religieuses, les lois civiles ou les droits des individus en matière de santé reproductive. C'est comme s'ils veulent annuler le côté moral du droit, alors que le droit n'est pas là pour avilir, mais plutôt pour promouvoir la vie. Le choix même de l'IVG montre déjà que le droit civil n'est pas en vrai avec lui-même. Sinon, il ne peut pas supprimer la vie. Alors, je crois que, justement, le droit civil ne veut plus entendre parler de la morale. Tout se comprend comme décision. C'est pour pouvoir imposer une réflexion, pour pouvoir imposer une vision. Supprimer la vie, moi, je ne trouve pas qu'il y a une coexistence dans ce cas. En aucune partie dans le monde, il y a le droit de supprimer la vie, mais de préserver la vie. En réalité, la morale a pour fonction d'être pour la vie.
C'est le dialogue des religions. Nous parlons de l'interruption volontaire de grossesse et la controverse religieuse. Sœur Denise Ayoko Kossi et l'historienne Sophie Bessis sont avec nous. Alors, Madame Sophie, comment les différents courants religieux abordent-ils la question des droits reproductifs des femmes? Vous avez suivi ce que le point de vue de l'Église catholique. Existe-t-il des divergences significatives entre les différentes religions à cet égard?
Tout à fait, il existe des différences significatives et on peut dire que l'Église catholique a la position la plus extrémiste en matière d'interdiction de toute interruption de grossesse. Je voudrais rappeler deux ou trois choses. La première, c'est que de tout temps, et on en a retrouvé des traces depuis la plus haute antiquité, les femmes ont essayé de mettre fin aux grossesses qu'elles ne désiraient pas par plusieurs procédés. Et que comme évidemment dans toute l'anthropologie depuis le néolithique, peut-on dire, les hommes, le genre masculin, si on peut l'appeler ainsi, a tenté de s'approprier le corps des femmes pour pouvoir contrôler leur maternité, contrôler leur filiation, évidemment, ça s'est traduit par une série d'interdictions, dont l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, les religions. Si on prend l'islam, par exemple, eh ben, l'islam est beaucoup moins strict sur la question de l'avortement que l'Église catholique. Pourquoi? Parce que dans le canon islamique, il y a une différence entre l'embryon et le fœtus. L'embryon n'a pas d'âme, le nafs en arabe. L'embryon n'a pas d'âme. Et tant que l'embryon n'est pas doté d'une âme, il n'est pas interdit de mettre fin à une grossesse. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, que l'âme apparaît, c'est-à-dire quand l'embryon se transforme en fœtus, si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez que les religions n'ont pas toutes la même position, que l'Église catholique est tout à fait extrémiste sur cette question-là, dans la mesure où il y a même des pays où l'interruption de grossesse est interdite, même en cas d'inceste, même en cas de viol, ce qui est quand même ce qui s'apparente à des traitements inhumains et dégradants pour les femmes. Vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire, une femme violée qui est obligée de garder son enfant, une femme qui est obligée de garder un enfant dont on sait qu'il sera très lourdement handicapé, une femme qui est obligée de garder un enfant né d'un inceste, et Dieu sait que l'on sait aujourd'hui à quel point l'inceste est fréquent dans toutes les sociétés du monde. Donc évidemment, l'interdiction, cette interdiction absolue de l'interruption de grossesse est une violence incommensurable faite aux femmes. Et l'autorisation, la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse met fin à ces violences millénaires qui sont faites contre les femmes. Et donc, si vous voulez le dire que il y a un être vivant dès la conception est une contre-vérité scientifique. Toute la science montre que non, dès la conception, il n'y a pas encore d'être vivant. Et que donc, cette affirmation se fonde sur une prémisse qui, scientifiquement, n'a non seulement... Voilà, c'est de dire on ne peut pas. Et puis, autre chose, bien sûr, qui m'apparaît extrêmement important, c'est que dans nos sociétés séculières, il y a une morale. Dire que la morale ne peut être que religieuse n'est pas pertinent, dans la mesure où, heureusement, il existe des sociétés qui ont une morale séculière, qui ont une morale qu'elles respectent. Et dernière note que je voudrais apporter à ce débat, le « tu ne tueras point ». Dans la même, dans les mêmes interdits et dans les mêmes injonctions, il y a le « tu ne tueras point » qui a été étendu au fœtus, et il y a l'autorisation de la peine de mort. C'est-à-dire que les mêmes qui défendent ce qu'ils appellent le droit à la vie défendent également la peine de mort. Moi, je pense qu'il y a là une incohérence qu'il conviendrait de lever et je n'arrive pas à comprendre comment les tenants de l'interdiction de l'avortement s'arrangent avec cette incohérence.
Sœur Denise, quel rôle pensez-vous que les communautés religieuses peuvent jouer pour promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle autour de questions aussi délicates que l'IVG, tout en respectant les diverses convictions et valeurs?
D'abord, il faut que les communautés religieuses se laissent aussi bousculer par toutes les questions que l'interruption volontaire des grossesses nous pose comme problème, sans que l'on commence par juger ou stigmatiser les gens. Mais il faut se demander quelles sont les questions derrière l'avortement. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à avorter volontairement? Donc, il y a toutes les questions de la sexualité. Comment penser l'éducation sexuelle? Il y a toutes les questions de la relation au corps, sur la responsabilité du père et de la mère, du projet parental. Est-ce que quand on entretient des relations sexuelles, sommes-nous prêts? Et quelle est cette vue que nous avons? Voilà, on est ouvert à un projet parental. Tout tourne autour de comment créer des espaces de rencontre, d'accompagnement avec beaucoup d'empathie et de non-jugement. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de décider par rapport aux autres, mais comment nous aussi on peut soulever des questions qui peuvent aider les autres à réfléchir à travers l'accompagnement spirituel et psychologique. Comment être prêt à écouter, à entendre aussi l'inattendable. Pour moi, c'est aussi arriver à accompagner toutes ces personnes dans une créativité, pas que nous pensons pour elles, mais avec elles. Nous devons nous rendre accessibles. Pour cela, il est nécessaire que les religieux et religieuses soient formés pour pouvoir accompagner ces personnes et être disponibles à tout moment. C'est très important. Et aussi, comment pouvons-nous nous mettre à la place des autres et comprendre la souffrance de ces femmes? Surtout, comment penser un vrai accompagnement? Et la dernière décision ne nous appartient pas. Il faut qu'on sorte de ce moralisme qu'il doit faire. Mais plutôt, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ce sont le genre de questions qu'il faut poser à ces personnes. Amener la personne à une certaine prise de conscience et faire réfléchir la personne par rapport au sens de la vie. Une autre manière d'aider ces personnes, c'est aussi de travailler avec notre société pour sensibiliser les consciences. Je vous remercie.
Merci. Madame Sophie, comment les différentes religions peuvent-elles dialoguer de manière constructive sur cette question tout en respectant leurs convictions respectives?
Mais elles ne veulent pas dialoguer. C'est bien ça le problème. C'est que leurs religions refusent de dialoguer là-dessus. C'est-à-dire qu'elles ont évidemment un corpus de vérité qu'elles considèrent comme fondamentale et qui sont évidemment indiscutables puisqu'elles sont supposées être la parole divine. Alors évidemment, il ne peut pas y avoir de démocratie dans ce contexte si la parole qui est supposée être divine, car il n'y a que les humains qui ont dit que cette parole était divine. Personne ne l'a dit sinon les humains. Alors à partir du moment où on dit la parole divine est indiscutable et qu'il s'agit d'une parole divine, bien évidemment, aucun débat n'est possible. C'est bien ça le problème des religions. C'est que leur façon de fonctionner interdit tout débat. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, évidemment. Maintenant, cela dit, les sociétés, en tout cas une grande partie des sociétés du monde, se sécularisent de plus en plus, ce qui est une chose extrêmement positive. Et donc, les injonctions religieuses, sauf dans un certain nombre de pays qui sont kidnappés, si l'on peut dire, par des instances théocratiques ou des instances religieuses, eh bien, dans beaucoup de pays, les femmes trouvent une écoute importante. Et cette écoute importante permet bien évidemment de faire avancer les choses, comme on l'a vu ces derniers jours en France. Mais le problème, c'est que il n'est pas possible de dialoguer avec des gens qui vous disent « c'est une vérité absolue, c'est une vérité divine et on ne revient pas là-dessus ». Alors si on pose dès le départ comme postulat qu'on ne peut pas revenir, comment voulez-vous dialoguer? C'est bien ça le problème.
Il y a aussi beaucoup d'implications sociales. C'est ici que s'achève cette édition de Dialogue des religions sur l'interruption volontaire de grossesse et la controverse religieuse. Sœur Denise Ayoko Kossi, merci pour votre contribution.
Merci à vous.
Sophie Bessis, merci de votre expertise. Je rappelle que vous êtes historienne d'origine tunisienne. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Fatouma Alimassi Kalala a assuré la mise en onde. Eric Manela Kidza au micro. Je n'oublie pas nos fidèles auditeurs. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.